Donc maintenant Bertrand Thirion, aussi chercheur à l'INRIA, qui va nous parler de... On va ce matin parler beaucoup d'analyse de données, donc d'analyse de données à très grande échelle.
Oui, bonjour. Je vais poursuivre donc en prenant plus un point de vue apprentissage statistique et en donnant donc mon point de vue sur ces problèmes. Donc je vais traiter deux aspects. Un premier, un petit peu général, c'est en quoi l'apprentissage statistique peut être utile pour l'analyse d'images médicales. Et deuxième aspect, où on en est aujourd'hui de l'imagerie médicale dans le passage justement aux grosses données, qui est une bonne question. Alors commençons par l'apprentissage automatique et ce qu'il peut apporter à l'imagerie médicale. Alors souvent on ne parlera pas d'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé c'est quoi? Vous prenez une collection de données plus ou moins complexes, ça peut être des images médicales comme on en a vu, ça peut être des graphes, ça peut être des objets assez complexes, et vous essayez à partir de ces données de prédire une certaine fonction de sortie. Donc mathématiquement c'est simple, c'est juste apprendre une fonction qui va d'un espace compliqué à un espace plus simple si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour bien faire ça, vous n'avez pas besoin de bien comprendre, de bien modéliser ce qui se passe dans l'espace d'entrée. Il suffit d'être capable d'extraire dans les données d'entrée ce qui va être utile pour prédire ce qui ira en sortie. Et donc, quelque part, vous oubliez la complexité des données, vous extrayez l'information pertinente. C'est pour ça que ce paradigme est aussi puissant. Alors, à côté de l'apprentissage supervisé, il y a l'apprentissage non supervisé, qui consiste à simplement faire le contraire, décrire la structure des données, trouver par exemple, y a-t-il dans vos données, donc imaginez que chaque point c'est une donnée, hein, y a-t-il dans vos données des endroits où il y a des accumulations, des modes, ou des données isolées, ce qu'on appellera des outliers, ou simplement explorer la structure des données en termes de clusters, par exemple, ce qu'on fait assez fréquemment, notamment pour visualiser. Mais, là, c'est une mauvaise nouvelle pour Richard. Les grands progrès de machine learning depuis 10 ou 20 ans, ils sont du côté supervisé. C'est là où on a eu les grandes percées, parce que, en fait, c'est un problème plus facile à résoudre. On veut juste prédire une sortie que, d'une certaine manière, on connaît déjà, alors que l'apprentissage non supervisé résout un problème beaucoup plus difficile qui est de décrire la structure des données et pour lequel on n'a pas une métrique, finalement, très simple pour évaluer la qualité d'un modèle. Alors, continuons sur l'apprentissage donc, supervisé essentiellement. L'idée, c'est que vous avez donc des données qui vous sont données. Donc, chaque point ici est une donnée. Alors, en fait, ça peut être très compliqué, une donnée. Ça peut être une image, ça peut être un graphe, etc. Et vous avez, je les ai colorés, donc vous avez un label associé, typiquement un label positif ou label négatif. Et ce que va faire l'algorithme d'apprentissage, c'est qu'il va apprendre la fonction qui, étant donné la donnée, va prédire la couleur, va prédire le label plus 1 ou moins 1. Et donc, pour ça, bon, il existe plein de méthodes différentes. Je vous ai mis un petit nombre dans le coin ici. Ce petit nombre, il vous dit, si vous reprenez d'autres données que vous n'avez pas utilisées pour apprendre le modèle et que vous regardez la qualité de la prédiction, eh bien là, c'est le taux de bonne prédiction. Ici, ce serait 97%. Alors, ensuite, comment sont construits les modèles? Alors, je vais pas être dans le détail de tous les modèles, je n'ai pas le temps, mais l'idée générale, à mon avis, qui est à retenir, c'est qu'à partir d'une donnée d'entrée, vous allez typiquement extraire des attributs de ces données. Et donc, imaginez que la donnée d'entrée, c'est une image. Une image, c'est en fait un vecteur de valeurs. Vous énumérez les valeurs des différents pixels de l'image. Donc ça, c'est un vecteur, mais qui n'a pas beaucoup d'informations. Vous préférez extraire de cette image des primitifs, par exemple la présence de contours, pour ensuite pouvoir expliquer ce qu'il y a dans l'image. Et donc, typiquement, cette extraction de contours, ce serait une extraction d'attributs de l'image. Donc avec ça, on crée ce qu'on appelle une représentation, et ensuite cette représentation, on peut l'utiliser dans un modèle discriminatif pour prédire des sorties. Donc j'appellerais extraction d'attributs ou dessin d'une représentation des données, pour moi c'est essentiellement la même chose. On peut même associer à ça la notion de noyau, qui est beaucoup utilisée en apprentissage. Un noyau, c'est une façon de mesurer la similarité entre les données. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une représentation complexe des données, mais dans l'espace de la représentation, la distance normale, la distance euclidienne, représente la distance que vous voudriez avoir entre les objets et donc mesure leur similarité. Et au fond, ces idées-là sont profondément liées. Alors, on peut tout de suite ajouter que jusqu'à il y a quelques années, on aurait vraiment séparé ces deux étapes en disant la première partie, extraction d'attributs, c'est vraiment l'art et la spécialité du modélisateur en imagerie médicale, et on ne laisse à l'apprentissage que la partie finale. Il se trouve qu'avec le développement des réseaux convolutionnels utilisés en vision et depuis réutilisés en imagerie médicale, on a tendance finalement à faire toute l'analyse avec uniquement une structure, ce fameux réseau convolutionnel qui prend en charge l'ensemble de l'analyse. C'est ce qui rend ces méthodes profondes aussi intéressantes du point de vue applicatif. Alors, un autre aspect intéressant avec l'apprentissage statistique, c'est l'idée de transfert d'apprentissage. Alors, vous pouvez, à chaque fois que vous avez un nouveau problème, apprendre votre règle de discrimination entre les classes, ce qui est bien, mais le problème, c'est que finalement, vous n'apprenez rien, puisque vous devez, à chaque nouveau jeu de données, réapprendre un nouveau modèle. Et donc, ça peut être intéressant de travailler différemment, par exemple, d'apprendre un modèle discriminatif sur un premier jeu de données, et ensuite d'étudier si ce modèle que vous avez appris généralise quand vous prenez un deuxième jeu de données a priori suffisamment similaire. Ici, par exemple, ce serait le cas. Et donc, on peut voir ce transfert d'apprentissage comme un type de généralisation plus fort que la généralisation entre jeux de données de train et test dont j'ai déjà parlé. Et toujours, quand vous avez un transfert qui fonctionne entre deux jeux de données, eh bien, ça vous apprend quelque chose sur la similarité de structure et de l'information portée par les différents jeux de données. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, de quoi l'imagerie médicale a-t-elle besoin ? Alors, les grands tâches de l'imagerie médicale, alors, Nicolas les a déjà à peu près toutes abordées, et je vais être très schématique, désolé, mais on pourrait dire en gros, vous avez les problèmes de classification, classifier une masse en mammographie, classifier une image du cerveau, est-ce que le sujet est un sujet âgé normal, entre guillemets, ou une personne atteinte d'un maladie d'Alzheimer. Ça peut être un problème de détection, détecter des rétinopathies, détecter des lésions dans la matière blanche, par exemple pour la sclérose en plaques. Et les problèmes également de retrouver des images dans des bases, donc extraire des signatures des images pour les identifier. Et puis des problèmes de recalage, de déformation, comment recaler ensemble différentes images. Et enfin les problèmes de segmentation, comment repérer des structures d'intérêt dans les images. Alors, tous ces problèmes peuvent plus ou moins être abordés par l'apprentissage statistique. J'ai mis une espèce de gradient de couleur, si vous voulez, en disant que les problèmes de gauche sont relativement faciles à aborder avec les méthodes d'apprentissage statistique, et ce que j'ai mis à droite est a priori beaucoup plus difficile à aborder. C'est facile à concevoir, la classification, c'est naturellement ce que l'apprentissage fait le mieux. Et donc, effectivement, il n'y a pas à discuter, c'est très utilisé aujourd'hui. Pour la détection, eh bien souvent, on va utiliser au fond la classification en disant « si je prends un des patchs de l'image, y a-t-il dans ce patch une structure suspecte, par exemple, une lésion, etc. ?» Et donc, au fond, on peut ramener les problèmes de détection à des problèmes de classification sur des imagettes. C'est pour ça que ça marche aussi. Image retrieval, il suffit juste d'extraire des signatures des images. Et donc, je vous ai dit que l'apprentissage est très bon pour ça. Par contre, le recalage d'images, c'est plus difficile. Alors, il y a des tentatives, il y en a peut-être aujourd'hui qui seront présentées, mais c'est un problème qui est a priori beaucoup plus difficile à mettre dans le cadre de l'apprentissage statistique. Et encore, la segmentation, on peut discuter, mais souvent, on a besoin d'avoir des a priori géométriques forts qui sont compliqués à mettre en œuvre dans le cadre de l'apprentissage. Voilà, ayant dit tout ça, je voudrais maintenant discuter un petit peu la question de l'imagerie médicale. Le passage à l'échelle justement vers les grosses données, les enjeux et les difficultés que ça peut entraîner. Alors, première remarque, l'apprentissage automatique, c'est une méthode statistique, et comme toute méthode statistique, ça requiert de grandes tailles de données. Donc je vais commencer par un argument d'autorité. Je prends ma librairie préférée d'apprentissage statistique, et ce qu'elle vous dit quand vous analysez un jeu de données, c'est que la première question que vous devez vous poser, c'est avez-vous au moins 50 échantillons, 50 observations ? Si oui, vous pouvez travailler, sinon il faut plus de données. Rien qu'avec ce critère-là, on pourrait rejeter la moitié des soumissions à Mikaï, je pense. Alors, de façon plus, mieux illustrée, peut-être, voici un jeu auquel on aime bien se livrer dans l'équipe. C'est par exemple de prendre l'image IRM anatomique ou fonctionnelle d'un individu et par exemple prédire quelque chose sur l'individu, prédire son âge. Ça marche très bien, on arrive à prédire à 5 ans près l'âge d'une personne en regardant l'IRM de son cerveau. Et simplement, ce que je veux vous montrer ici, c'est que quand on fait la même chose en variant le nombre d'images utilisées pour apprendre le modèle, on voit ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, learning curve, qui montre qu'on arrive effectivement à une très bonne qualité de prédiction à 300. Et en revanche, avec des petits échantillons, on est d'une part beaucoup moins bon, et puis la variabilité dans la prédiction est beaucoup plus grande. Alors, plus inquiétant encore que la question de la qualité de la prédiction, c'est que si on veut étudier le motif discriminant utilisé par le classifieur pour prédire l'âge de la personne, donc ici je vous l'ai fait, je vous ai pris des petits groupes de sujets, donc en faisant du tirage dans la population. Vous voyez que si je prends 10 groupes différents et que j'essaie je vous montre le motif discriminant pour prédire l'âge du sujet, c'est tout de même assez compliqué, on a du mal à extraire une information utile de ces résultats. Alors, pour clarifier mon propos, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour ces différents groupes la moyenne à travers les groupes, donc l'image moyenne, le motif moyen, et puis la variance à travers les réalisations, et je vais simplement faire le rapport entre les deux, donc le pattern moyen divisé par la déviation standard du motif. Et donc, vous avez une image comme ça. Alors, là où c'est bleu, ça veut dire que l'information anatomique, ici, c'est la densité de matière grise, est négativement corrélée à l'âge, ou plutôt à un effet négatif sur la prédiction de l'âge. Et rouge, ça veut dire qu'il y a une corrélation positive, en quelque sorte. Et puis, là où c'est vert, c'est que, en gros, il n'y a pas d'effet, on n'arrive pas à analyser l'effet s'il y en a un. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que quand on passe d'un petit groupe de 10 sujets à 20, 50, 100, 200 ou 300 sujets, vous voyez que peu à peu, le motif devient de plus en plus important. On voit qu'en réalité, avec suffisamment de données, une grande partie de l'information du cerveau est importante pour prédire l'effet de l'âge. Et effectivement, l'effet de l'âge est un effet hyper distribué sur la densité de matière grise dans le cerveau. Donc ceci pour vous illustrer l'importance, à quel point on aurait une conclusion limitée ou biaisée si on se contentait de petits jeux de données. Alors, comment fait-on pour avoir des jeux de données, surtout sur des problèmes difficiles, les problèmes en psychiatrie, où c'est difficile de recueillir des grandes quantités de données? Alors, une solution pour ça, c'est de rassembler des jeux de données existants. C'est par exemple ce qu'a fait le consortium Abide pour l'étude de l'autisme chez les enfants, où ils ont rassemblé des jeux de données d'IRM sur des enfants autistes et des contrôles venant de 17 centres d'acquisition différents, ce qui permet de rassembler à la fin un millier d'images. Donc nous avons utilisé ces images, donc c'est de l'IRM fonctionnel acquise au repos qui permet d'étudier la connectivité cérébrale, donc l'organisation on veut dire, du cerveau. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'avec cette information de connectivité, on arrive à prédire si le sujet est autiste ou un contrôle. Alors, on prédit assez mal, en réalité, puisqu'on est entre, vous voyez, 50 et 70% seulement. La chance serait à 50%, donc c'est assez mauvais. Mais il y a quand même deux bonnes nouvelles dans ce résultat. La première bonne nouvelle, c'est que la courbe d'apprentissage est croissante. Ça veut dire que si on avait non pas 1000 observations, mais 3000 ou 5000, on aurait a priori un taux de classification encore nettement supérieur. D'ailleurs, depuis, on est passé un petit peu au-delà de 72% à peu près. Donc, c'est des choses qui s'améliorent. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que si on compare la prédiction intra-site, où on généralise à l'intérieur de chaque site, ou inter-site, où on essaie de généraliser des données acquises à San Francisco sur les données acquises à Bruxelles, eh bien, on voit qu'a priori, la généralisation intercite est plus difficile à cause de la variabilité de provenance, ce qui fait que le taux de classification est plutôt plus faible, mais les deux courbes se rejoignent. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand vous avez suffisamment de données et que vous avez assez bien échantillonné la variabilité, eh bien, au fond, vous avez également avalé finalement cette variabilité intercite. Alors, il y a plein de problèmes à résoudre quand on veut faire de l'imagerie de population, enfin de l'apprentissage sur l'imagerie de population. Donc la question covariate shift, j'arrive pas à le dire en français, c'est juste les dérives, le fait que la provenance des images est un facteur important qui explique la variabilité des images. Et donc la façon, c'est de normaliser le mieux possible les données, éventuellement faire en sorte qu'aucun classifieur ne puisse retrouver l'origine des images une fois qu'on les a traitées. Un autre problème classique, c'est le déséquilibre des classes, donc que je vous illustre ici. Si vous avez un problème ici de classification à trois classes, rappelez-vous que chaque point est une observation, et donc la couleur code la classe. Et comme les classes sont très déséquilibrées, eh bien, un modèle d'apprentissage standard aura tendance, ne pourra ici ne saura prédire que deux classes, soit la jaune, soit la bleue, et que pour pouvoir, si c'est important pour vous d'être capable de détecter les trois classes, il faudra rééquilibrer l'apprentissage, et donc il y a différentes méthodes, notamment de rééchantillonnage, qui permettent de rééquilibrer l'apprentissage pour avoir des erreurs plus équilibrées, finalement, entre les classes. Également lié à ça, le fait que certains labels présents dans les observations pour annoter les données sont beaucoup plus rares que d'autres et donc seront intrinsèquement beaucoup plus difficiles à prédire. Alors, avoir plus d'images, c'est difficile, mais ce n'est pas le plus difficile. Et Nicolas l'a déjà dit d'ailleurs, ce qui est encore plus difficile, c'est d'avoir des annotations sur ces images. Parce que pour ça, il faut qu'il y ait un expert qui soit dise le sujet est comme ci ou comme ça, ou qui aille contourer des structures dans les images, ce qui est extrêmement coûteux et difficile. Alors, par rapport à ces problèmes, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de utiliser l'apprentissage à nouveau, notamment en appliquant l'apprentissage à la littérature. Toutes les publications scientifiques qui sortent d'un domaine nous renseignent sur la co-occurrence des concepts dans ce domaine. Et donc, pour les sujets qui m'intéressent, moi, qui sont l'imagerie cérébrale, on a fait ce genre de choses sur les concepts de psychologie cognitive. Et on peut regarder à travers la littérature quels sont les termes associés au concept de mémoire. Et donc, vous voyez ici le terme de maintenance, d'encodage, etc., sont associés. Et donc, avec ça, on apprend la structure du vocabulaire et on saura que si l'un de ces concepts est associé à une donnée, peut-être qu'on peut aussi lui associer le concept voisin. Et deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est associer statistiquement des topographies cérébrales, donc des positions dans les images, à cette sémantique présente dans les publications. Ici, par exemple, on voit la carte qui permet de décoder l'occurrence du terme mémoire, du concept mémoire dans les expériences. On voit évidemment l'hippocampe utilisé dans ce pattern discriminant. Mais ce qui est important, c'est que ça a été appris complètement à partir de la littérature uniquement. Alors, une autre chose qu'on peut faire quand on est limité par les données, c'est faire, justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'apprentissage par transfert. Et un transfert particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est de réutiliser les modèles entraînés sur les tâches de vision pour lesquelles on a des millions de données à noter. Et donc, on peut effectivement apprendre à construire des représentations avec des modèles profonds sur les problèmes de vision, appliquer ces représentations à des problèmes médicaux, pour pouvoir simplement ensuite avoir la partie discriminative simplement réentraînée sur le problème médical. Et donc, ça permet effectivement de résoudre ce problème de manque de données. L'autre stratégie, c'est de faire de l'augmentation de données, c'est-à-dire de créer des données hybrides, légèrement transformées, pour augmenter un petit peu artificiellement la base de données. Alors, une fois qu'on a beaucoup de données, on a des problèmes de riche. Et ce problème de riche, souvent, c'est comment est-ce que j'arrive à analyser cette masse de données que j'ai fini par réunir. Et donc ici, vous voyez quelqu'un qui se plaint sur une mailing list, qui n'arrive pas à analyser, à mettre en mémoire les données de plus de 10 individus sur le jeu de données Human Connectome Project, qui contient à peu près 1 million d'individus actuellement. Et effectivement, c'est un problème. Quand vous prenez justement ces données du Human Connectome Project, ici je parle des données d'IRM fonctionnel au repos, qui est un petit peu le centre de ce projet. Il se trouve que chaque image contient environ 200 000 voxels, c'est le nombre P que vous avez ici. Et quand vous prenez tous les volumes tridimensionnels que vous avez dans ce jeu de données, vous en avez environ 2 millions, ça représente 2 teraoctets de données. Donc impossible de charger ça sur votre ordinateur. Donc si vous voulez faire un apprentissage, par exemple segmenter ces images en régions, ce que vous voulez faire à partir de ces données, eh bien, la bonne solution, c'est de dire on ne va pas tout charger en mémoire, on va prendre un petit bout des données, on va instancier un modèle dessus, et puis on va mettre à jour en prenant des petits batchs de données. C'est l'apprentissage en ligne. Donc, ce que nous avons fait, nous, c'était de dire eh bien, cet apprentissage en ligne, il marche bien, mais il est lent, et on peut l'accélérer en sous-échantillonnant, en quelque sorte, le modèle au fur et à mesure. Alors, l'intuition est intéressante. C'est que quand vous avez une grosse matrice de données avec beaucoup de dimensions, aussi beaucoup de voxels, et puis beaucoup d'observations, souvent il y a une structure latente, une structure sous-jacente. On va dire que la matrice est de barrant. Donc vous n'avez pas besoin de mettre à jour tout le modèle tout le temps. Vous pouvez simplement le mettre à jour par petits morceaux. En fait, vous arriverez à la même solution. Ce qu'on peut prouver mathématiquement et ce qu'on peut vérifier empiriquement. Alors, Je vous donne ici en image. Vous avez votre matrice géante, X, votre matrice de données avec les voxels et le nombre d'observations. Vous ne pouvez pas la faire tenir en mémoire. Alors, vous pouvez avoir des méthodes donc, de streaming, en quelque sorte, qui vont mettre à jour le modèle avec des petits morceaux de cette matrice. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en plus, vous n'avez pas besoin de prendre des colonnes entières de la matrice de données. Vous pouvez prendre juste quelques éléments, mettons 10% des données. Et quand vous faites ça, vous allez 10 fois plus vite pour mettre à jour votre modèle et vous arrivez à la même solution. Ce qu'on a montré effectivement sur ce problème, c'est-à-dire que la solution finale, on obtient la même en ayant réduit la taille des données, ce sont les courbes en bleu, simplement on va 10 fois plus vite, essentiellement pour résoudre ce problème-là. Et c'est un problème beaucoup plus général qu'on peut utiliser dans d'autres branches de l'apprentissage. Et comme ça, en quelques heures, vous avez un bel atlas du cerveau appris sur vos 2 téraoctets de données. Autre idée qui est très proche dans l'esprit, c'est que quand vos données sont trop grosses, bien, vous pouvez les compresser. Compresser des images, ça veut souvent dire remplacer les valeurs de tous les pixels par des petites moyennes locales. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre votre image et vous allez créer ce que j'appelle une représentation, ce que j'ai appelé une représentation, mais ici, la représentation, elle est explicitement compressive. Hein, vous réduisez l'image. Et vous travaillez sur ce petit vecteur compressé, mais vous avez compressé de façon intelligente, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous pouvez toujours reconstruire une image au moins approximative à partir de la version compressée. Donc pour ça, il vous faut un algorithme efficace pour compresser les images, tridimensionnelles, donc ce que nous avons mis au point avec un algorithme très rapide, essentiellement linéaire en temps, qui va rapidement créer des structures sur les images. Et ce que je vous montre ici, c'est l'application de cet algorithme à des problèmes d'apprentissage, donc toujours sur les images du cerveau. Vous voyez que quand on applique cet algorithme à des données, donc vous avez la courbe en noir, au départ, vous avez passé 10 secondes à attendre pour créer le clustering, donc compresser votre image. Une fois que votre image est compressée, eh bien, votre apprentissage va beaucoup plus vite parce que vous résolvez un problème beaucoup plus simple. Donc vous obtenez la solution finale en 10 fois moins de temps que si vous aviez conservé l'image originale. Même chose ici sur un problème beaucoup plus gros. On avait environ 10 000 images à classifier en 20 classes. Vous voyez qu'on obtient la solution à peu près en 2 minutes, y compris le clustering, au lieu de 20-30 minutes d'habitude. Et le bonus, c'est que non seulement vous allez beaucoup plus vite, mais votre résultat est meilleur, parce qu'en remplaçant les pixels de l'image par des moyennes locales, vous avez débruité l'image, et donc à la fin, vous avez une meilleure discrimination des classes. Alors, on a fait plein d'expériences pour prouver ce que je dis, donc c'est important de montrer que ceci ne marche pas que sur un petit jeu de données de 20 sujets, mais justement se généralise à pas mal de problèmes en imagerie médicale et en vision. Donc on a à chaque fois la méthode en noir qui a une bonne accuracy par rapport au modèle compétitif et qui est très rapide en temps de calcul. Voilà. Alors, toutes ces méthodes sont intéressantes, mais elles ne deviennent utiles que le jour où elles sont implémentées dans des librairies utilisables par tout un chacun. Et donc, ce que fait mon équipe, c'est d'écrire des briques logicielles utilisables par la communauté. Donc, la librairie Scikit-Learn, qui est une librairie d'apprentissage générique, qui vous donne des méthodes, alors, des méthodes non profondes. Hein, explicitement, on n'aborde pas les méthodes profondes dedans, mais donc l'apprentissage, on va dire, classique, essentiellement contenu maintenant dans Scikit-Learn, au moins les méthodes les plus standards, et puis ensuite des librairies plus dédiées aux images du cerveau, MNE pour la magnéto-encéphalographie, l'électrocéphalographie, et puis la librairie Nilearn pour les images de type IRM. Voilà. En conclusion, je voudrais juste souligner quelques points aveugles dont je n'ai pas eu le temps de parler et qu'on oublie trop facilement. La première chose, c'est que augmenter la taille des jeux de données, ça suppose qu'à un moment donné, on puisse rassembler des données et donc qu'on partage nos données. Je dis ça parce qu'en France, nous sommes très en retard sur ces questions-là. Et je pense que, de cette manière, on court un risque de marginalisation quand on voit qu'il n'existe pas actuellement de grandes cohortes françaises disponibles. Mes étudiants travaillent sur des données anglaises et américaines. Deuxième point, les données, c'est important en apprentissage de gérer la question des facteurs de confusion. Par exemple, vous voulez prédire le QI d'une personne en regardant l'image de son cerveau, ce genre de choses qu'on fait dans mon équipe. Eh bien, il faut faire très attention parce que prédire l'âge de la personne est une très bonne explication de le QI ou du test d'intelligence fluide. Et qu'on savait très bien faire en statistique comment régler les facteurs de confusion. En apprentissage statistique, eh bien, on a un peu oublié comment on fait ça. Et donc, actuellement, on met en place des procédures pour faire que l'apprentissage ne soit pas biaisé par ce type de facteurs latents confondants. Alors, covariate shift, j'en ai parlé, hein, c'est le fait que la provenance de données peut être importante et que c'est important de s'assurer que on a essentiellement normalisé les données pour éliminer ces aspects. Autre point essentiel en imagerie médicale, c'est les données manquantes. Vous avez toujours des données partiellement observées, par exemple un test qui n'aura pas été fait chez tous les patients de la cohorte. Et donc, il faut mettre au point des techniques d'imputation de données, par exemple, pour résoudre ces problèmes-là. Donc, nous, on s'y attaque. On commence à regarder justement les méthodes profondes pour les problèmes d'imputation. Et également, l'inconsistance des annotations. À chaque fois qu'une notation est entrée manuellement, vous avez des inconsistances, et donc il faut des techniques de text mining assez puissantes pour être capable de repérer les similarités et être robuste à ces petites inconsistances. Et puis, dernier point, c'est l'explicabilité des modèles, c'est-à-dire que attention aux boîtes noires, on ne peut pas s'en satisfaire dans le cadre de l'imagerie médicale, c'est important qu'on puisse expliquer comment un diagnostic est obtenu. Et donc, il faut des méthodes avec des justifications statistiques de type intervalle de confiance. C'est quoi les valeurs explicatives du modèle, enfin, les variables explicatives du modèle, et éventuellement en allant vers la causalité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prouver quelle est la cause de l'effet étudié. Voilà, je voudrais remercier mes collègues et merci pour votre attention.